Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et vous écoutez Impact Positif. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement, ils agissent, ils font, ils ont des solutions, les voici.
Quelle entreprise aujourd'hui ne veut pas avoir d'impact? C'est normal que toute entreprise va y avoir un impact. Ensuite, qu'est-ce que c'est une démarche d'impact pour un investisseur? C'est pas uniquement mesurer son impact en aval. C'est avoir une stratégie d'investissement au départ, c'est-à-dire c'est sélectionner. Donc nous, on sélectionne des entreprises dont on est convaincu qu'elles ont une finalité sociale ou environnementale qui est au cœur du business. Et on s'est un peu créé de ce point de vue-là en réaction ou en frustration par rapport à une RSE qui n'était pas au cœur des stratégies de stratégie d'entreprise et puis en fait qui était marginale par rapport au business.
Citizen Capital est le premier fonds d'investissement à impact en France. Il a été le premier à démarrer en 2008, à lever des fonds pour accélérer la transformation de la société via les entreprises. Avec ce podcast, je vous propose une conversation avec celle qui a co-créé le fonds, Laurence Méhaignery. Avec elle, ce sont les tout débuts de l'impact investing qui nous sont racontés jusqu'aux entreprises à mission d'aujourd'hui. Un voyage passionnant et exigeant dans les coulisses des projets à impact. C'est l'épisode 53 d'Impact Positif que vous retrouvez sur toutes les plateformes et sur lci.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter pour faire grandir le média. Impact Positif, andiamo. Laurence Méhaignery, bonjour.
Bonjour.
Alors, ravie vraiment de vous recevoir dans Impact Positif. Vous avez cofondé Citizen Capital, dont vous êtes la présidente. C'est un fonds d'investissement impact. Vous avez été un des tout premiers fonds à s'intéresser aux entreprises qui tentent de relever des défis sociaux et environnementaux. Et on peut dire que vous êtes vraiment pionnier dans le secteur. On va s'intéresser à votre parcours, mais aussi grâce à vous, on va essayer de mieux comprendre ce secteur des entreprises à mission, son évolution, de quoi il a besoin pour grandir. Et puis, on est ravis aussi de donner la parole à un fonds, car c'est vous qui faites aussi émerger des projets. Mais tout d'abord, Laurence Méhaignery, vous n'avez pas fait cela toute votre vie, vous avez même été journaliste. Comment décide-t-on un beau jour de se lancer dans l'impact investing? Alors, vous avez cofondé votre entreprise en 2008, alors même que le terme d'impact investing n'était qu'un concept abstrait pour beaucoup. Expliquez-nous.
Alors effectivement, j'ai pas du tout un background de financière et la finance était probablement l'endroit le plus éloigné où je pouvais atterrir dans ma vie.
Vous avez des études de sociologie notamment.
J'ai fait des études de sociologie et d'urbanisme, absolument. Et en fait, j'ai grandi dans une famille où la question de l'utilité publique était assez centrale, on en parlait à tous les repas. Et donc j'ai grandi avec l'idée, d'une manière ou d'une autre, que si on voulait changer les choses, il fallait s'engager d'ailleurs plutôt dans le public.
On rappelle que votre père a été ministre.
Voilà, j'ai un père qui a fait de la politique, et donc l'idée était assez naturelle que je suive le chemin que je n'ai pas complètement suivi. Mais je pense par contre que j'ai eu un ADN assez tôt d'engagement, en tout cas de... Toujours l'idée qu'on peut déplacer des montagnes, qu'il y a des causes à défendre et qu'il faut changer le monde, en gros. J'ai toujours un peu grandi avec cette idée, mais j'ai grandi aussi avec l'idée que c'était dans la fonction publique ou autour, le monde associatif, le monde politique, que c'était dans cet univers-là que naturellement on allait pouvoir faire évoluer la société. Et moi, j'ai fait un chemin dans ce monde-là, je dirais, pendant mes premières années, j'ai été effectivement journaliste. Ensuite, j'ai eu quelques années où j'étais à mon compte, en fait, journaliste, mais avec d'autres voix. Et puis, j'ai croisé la route de quelqu'un qui s'appelle Yazid Sabeg, avec qui j'ai rédigé un rapport pour l'Institut Montaigne, où j'ai beaucoup travaillé avec Claude Bébéard, qui avait commandé ce rapport sur la question de l'égalité des chances. Et on était une petite équipe à avoir beaucoup travaillé autour de ces sujets-là. On a fait un rapport qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y avait un certain nombre de recommandations qui n'étaient pas consensuelles dans la société française. On a été parmi les premiers à recommander, enfin à s'inspirer de politiques dites d'affirmative action. Je refuse le terme de discrimination positive en France, mais à regarder comment la France pouvait non pas tourner le dos à sa diversité, mais vraiment faire une force. Et c'est à la sortie de ce rapport en 2004. J'ai commencé à vraiment connaître le monde de l'entreprise, puisque les grandes entreprises étaient elles-mêmes à un moment où elles n'avaient pas de réponse sur les questions de discrimination. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait beaucoup d'études qui sortaient et qui montrait le caractère massif des discriminations de genre, mais aussi ethniques. Mmh. C'était un peu la découverte qu'en fait, il y avait tout un pan aveugle de nos politiques publiques. Et ce rapport proposait clairement un certain nombre de recommandations sur ce type de sujet. Et les grandes entreprises, et notamment les DRH, se sont saisies de plusieurs de ces propositions, dont une qui était la mise en place d'une charte de la diversité, qui était un concept très nouveau à l'époque, puisque la diversité, c'était un concept considéré comme anglo-saxon.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'était pas très
francophone. On était sur la lutte contre les discriminations. Et dans ce rapport, on disait que, en fait, la lutte contre les discriminations n'outillait pas les entreprises pour s'améliorer. C'est-à-dire, soit on discriminait, soit on discriminait pas. Mm-hmm. Mais il y avait rien entre les deux. C'était binaire. La diversité apporte la possibilité de s'améliorer. Donc, d'une boîte à outils qui permet de dire, on est mauvais, effectivement. Mais, en fait, on a la capacité à faire mieux et à mesurer, notamment. Et donc, elles ont recruté des responsables diversité. Il y a eu tout un mouvement autour de ça. Qui était vraiment dans le prolongement de ce rapport et de la signature de la Charte de la diversité qui est intervenue à l'Institut Montaigne, que j'ai co-rédigé et co-lancé avec l'équipe de l'Institut. Et il y a 36 des 40 sociétés du CAC 40 qui étaient là, représentées ce jour-là, et qui avaient signé.
Ah oui.
Et là, moi, j'ai découvert quelque chose. Pour moi, ce rapport s'adressait à aux députés, au monde politique et à ceux qui fabriquent la loi. Mmh. Et j'ai découvert qu'en fait, ils étaient très en retrait. C'est l'entreprise qui s'est non seulement approprié le sujet d'un point de vue intellectuel, mais qui s'en est saisie avec une efficacité qui, moi, me paraissait qui m'avait impressionnée. Et un an plus tard, moi, je suis partie passer un petit moment en cabinet ministériel sur ces sujets-là. Mmh. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai eu une certaine déception sur...
L'action publique.
Sur l'action publique. Mmh. Je me suis dit que j'y serais encore à 60 ans sur ce sujet, que je n'avais pas non plus fait l'ENA. Et je me suis dit, en fait, où est-ce que j'ai le plus de potentiel d'action ?
Ouais.
Où est-ce que je peux le plus faire changer les choses ? Finalement, est-ce que ce n'est pas dans le privé ?
Ouais.
Et donc, je pense... Enfin, ça s'est fait sur quelques années... Mais à un moment, je me suis dit que j'avais envie de faire le grand saut et de continuer à poursuivre des objectifs que j'estime d'utilité publique, mais dans la sphère privée. Mmh. Et en fait, on est aussi... on était dans les années 2005, entre 2005 et 2010, enfin 2008. Et c'était une époque aussi où l'entreprise a clairement pris un potentiel, une puissance d'action et de transformation de la société qui nous apparaît maintenant extrêmement forte par rapport à la première moitié du XXe siècle, ou la deuxième moitié même.
Ouais.
Donc, l'entreprise a une telle puissance d'action et de transformation, pour le meilleur et pour le pire, qu'il me semblait qu'elle pouvait plus, elle ne pouvait plus être considérée juste comme un objet qui était destiné à être constitué dans l'intérêt de ses associés pour en partager le bénéfice, qui est la définition du code civil depuis Napoléon. Mmh. Et cette idée qu'elle ne rende pas plus de compte commençait à faire son chemin. Donc on parlait de RSE. Et progressivement, il se trouve que j'ai été amenée à rencontrer des gens plutôt aux États-Unis, en Angleterre, qui avaient lancé des fonds avec des objectifs de rendement financier et d'impact social positif, qu'on n'appelait pas encore impact investing, on parlait de social venture. Mmh. Et je trouvais ça très intéressant, en fait, cet outil du capital, qui m'était assez étranger. Mais je me suis dit, mais c'est un outil qui a quand même... c'est un sacré levier, en fait, pour accélérer des transformations. Et voyons voir ce qui pourrait être intelligent de faire en France. Moi, j'étais à la fin de ma période de conseiller en cabinet ministériel. Je souhaitais quitter la fonction publique, ou la sphère publique au sens large. Et j'étais clairement en train de me dire que j'avais envie de créer quelque chose et de devenir entrepreneur. Je pense que j'avais une fibre entrepreneuriale qui commençait à être un peu frustrée. Mmh. Et j'avais envie de faire quelque chose de mon propre chef.
Mmh. Votre père ne vous en a pas voulu ?
Non, pas du tout. Je pense qu'il aurait toujours rêvé que je fasse de la politique. Mais, Mais c'était une façon de faire mon propre chemin et le respecter tout à fait, ouais. Mm-hmm. Mais je suis pas sûre qu'il ait complètement compris le projet du fond au départ, mais il le respectait tout à fait.
Mm. Alors, vous avez eu l'occasion, alors justement, de voir le secteur évoluer complètement de quelques entreprises atypiques. En 2008, on est passé aujourd'hui à un vrai mouvement intergénérationnel avec les sociétés à mission, la loi PACTE, toute la tech for good, la nécessité pour toutes les entreprises, finalement, de se transformer sous peine de disparaître. C'est vraiment le grand écart, quand même, par rapport à il y a 15 ans. Quel est votre regard là-dessus ?
Alors, il est à la fois, c'est un grand écart, et à la fois, méfions-nous des sémantiques. Mm. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs mouvements. Il faut voir, en effet, que quand il y a 12, 13 ans maintenant, quand on a créé ce fonds, quand on allait voir nos premiers investisseurs, ils nous disaient, mais c'est très audacieux, c'est très sympathique, votre projet, on va vous mettre en contact avec notre fondation. C'est-à-dire qu'il y avait une dichotomie totale entre faire du business d'un côté et faire le bien de l'autre. Ouais. Et le bien, c'était de la philanthropie. Mmh. Et nous, on venait avec une proposition de valeur qui était un peu différente, qui était de dire, non, en fait, on a une vraie approche de capital investissement. Mon associé avait passé 10 ans chez Bridgepoint à faire de l'investissement. On ne fait pas du tout de la philanthropie. En fait, notre projet, c'est de coupler des objectifs assez ambitieux de performance économique et financière et des objectifs ambitieux sociaux, mais de faire les deux en même temps. Parce qu'on pense que l'entreprise, aujourd'hui, a un rôle social qu'elle va de toute façon devoir déployer. Elle doit contribuer à relever les défis sociaux et environnementaux. On n'a pas le choix. Sans elle, on est mort. Enfin, on a absolument besoin de la contribution de l'entreprise, vu sa puissance. Et ça, ça a mis beaucoup de temps. Parce que je dirais que les 5 premières années, donc entre la fin de la... Enfin, on est né en pleine crise de 2008.
En plus.
Mm-hmm. Les 5 années qui ont suivi, c'est des années où effectivement, il y avait une difficulté, surtout en France, à comprendre cette possibilité de faire les deux en même temps. Les États-Unis étaient sur une optique un petit peu différente. Ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que, clairement, maintenant, on est dans une approche où la société, l'entreprise doit contribuer à relever les défis. Environnementaux, très clairement. Sociaux, il y a encore... Je pense que c'est encore un peu plus flou dans l'esprit des gens, la manière dont l'entreprise peut vraiment contribuer d'un point de vue social. Et puis, aujourd'hui, il y a un glissement sémantique entre des termes comme ISR, ESG, RSE, d'une part, et impact. Et aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'impact.
Oui, impact, c'est devenu un peu le terme
chouette.
À la mode.
Mais oui, parce que
après
l'impact...
Après développement durable, après solution, maintenant, c'est l'impact.
L'impact. Et en fait, l'impact, c'est un terme peut-être qui a vocation à nous échapper en tant que démarche, réellement, notre type de démarche. Parce que l'impact, en fait, c'est... D'abord, il peut être positif ou négatif. Et l'impact, c'est un terme universel. En fait. Quelle entreprise aujourd'hui ne veut pas avoir d'impact ? C'est normal que toute entreprise va y avoir un impact. Ensuite, qu'est-ce que c'est une démarche d'impact pour un investisseur ? C'est pas uniquement mesurer son impact en aval. C'est avoir une stratégie d'investissement au départ, c'est-à-dire c'est sélectionner. Donc nous, on sélectionne des entreprises dont on est convaincu. Qu'elles ont une finalité sociale ou environnementale qui est au cœur du business. Et on s'est un peu créé de ce point de vue-là en réaction ou en frustration par rapport à une RSE qui était restée un peu aux marges des COMEX, des conseils d'administration, en marge des décisions stratégiques, en marge de la stratégie des entreprises.
Qui était en retrait, qui était un peu un vernis, le vernis
de l'entreprise. Qui était un petit peu un vernis et qui n'était pas au cœur des stratégies de la stratégie d'entreprise. Et puis, en fait, qui était marginal par rapport au business. Qui était sur comment on forme les gens. Alors, tout ça, évidemment, a un impact sur l'activité de l'entreprise. Mais ce n'est pas le produit ou le service qui était en jeu. C'était la manière dont on fonctionne dans l'entreprise, dont on diminue notre empreinte environnementale. Alors, il y a eu les gestes environnementaux à une époque. C'est la façon dont on forme les gens, c'est le dialogue social, c'est les rémunérations. C'est ça l'ESG. Et en fait, c'est un certain nombre d'indicateurs qu'on va retrouver typiquement sur des reporting ESG qui peuvent se consolider parce que tout le monde suit les mêmes. Tout le monde va regarder le budget formation, par exemple, dans une entreprise. Ça, c'est typiquement un indicateur RSE. De plus en plus, on regarde comment une entreprise diminue son empreinte environnementale. Mmh. Ça, pour moi, ça, c'est de l'ESG. Et c'est ultra important. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise à faire, quel que soit son métier, à faire les choses en tenant compte de son environnement social, sociétal, et de les faire correctement, avec une éthique, etc. L'impact, c'est la démarche d'impact, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est, on s'engage à sélectionner des entreprises, en tant que fonds, financer, accompagner des entreprises qui cherchent à apporter des solutions. On n'est pas dans l'objectif de diminution de ces impacts négatifs, qui est le gros enjeu de toutes les grandes entreprises aujourd'hui et qui est déjà un énorme sujet.
Ouais.
C'est le « do no significant harm ». Donc, toutes les grandes entreprises ont une énorme transition à faire sur comment je diminue mes impacts négatifs. Nous, on est plutôt arrivés, et ce n'est pas un hasard si tous les fonds d'impact qui se sont créés financent plutôt des start-up, des PME. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est arrivée et qui a souhaité développer des entreprises pour résoudre un problème. Je schématise un peu, mais c'est mon entreprise. Je m'appuie sur l'entreprise pour relever un défi social. Donc ça va être former des gens qui sont peu qualifiés, ça peut être proposer de consommer des objets type portable ou smartphone de seconde main plutôt que de les consommer. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui se sont créées, mais le cœur même de l'activité de la boîte est une solution qui permet de contribuer à son niveau à résoudre les problèmes, un problème social ou environnemental. Donc on met pas ça tout à fait sur le même plan. Du coup, aujourd'hui, je trouve qu'on jette un peu vite l'eau du bain avec l'ESG, que l'ESG, c'est un énorme sujet et qu'il faut aussi des fonds d'impact pour venir apporter d'ailleurs aussi ces grandes sociétés qui sont en transition des solutions nouvelles.
Et justement, vous trouvez qu'il y a peut-être un peu trop de com par rapport à ces entreprises qui emploieraient ces termes, alors que finalement, elles ne sont pas tout à fait en train de changer le cœur de leur stratégie, de leur business, pour effectivement faire ce que vous dites, avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans cette fausse com, on va dire.
Ouais, c'est difficile de faire une généralité. Moi, je constate quand même une évolution des entreprises, en tout cas des grandes entreprises, celles qui sont les plus visibles et qui ont une obligation de transparence assez forte. Et donc, on peut voir leurs rapports et voir des grandes entreprises. Alors, je prends l'exemple de L'Oréal, qui a un objectif d'être neutre, carbone neutre, je ne sais plus si c'est en 2030 ou en 2050. C'est des objectifs ambitieux. C'est un sacré programme qu'il faut mettre en place pour y arriver. Donc, j'ai du respect pour une entreprise qui commercialise ce que commercialise L'Oréal, d'avoir cet objectif-là d'être carbone neutre en 2050. Et moi, je dis chapeau. Les entreprises, enfin, pour moi, c'est le vrai sujet des grandes entreprises. Ensuite, c'est pas
L'Oréal, c'est vrai qu'ils sont dans cette démarche-là depuis un certain nombre d'années aussi.
Un certain nombre d'années. C'est pas pour autant que L'Oréal est une entreprise à impact, ni même une entreprise à mission.
Oui.
Donc, je pense qu'il faut respecter l'importance de l'enjeu de réduction des impacts négatifs qui est beaucoup exprimé par la notion de trajectoire carbone aujourd'hui, mais en fait qui pourrait se traduire aussi sur les plans sociaux. Mais effectivement, il y a un petit souci de sémantique et le fait de vouloir s'approprier l'impact est évidemment plus attractif. De dire qu'on fait de l'impact plutôt que de dire qu'en fait on a une politique de réduction de ces impacts négatifs qui a des impacts très positifs, in fine. Donc il y a un raccourci, je trouve, sur l'utilisation du terme d'impact, mais peut-être aussi que je suis partie un peu des puristes et des pionniers de cette démarche d'impact et que je pense que ce serait dommage qu'il y ait une confusion complète. Et si demain BlackRock fait de l'impact, on changera de nom.
Aujourd'hui, l'impact investing en France, ça représente quoi?
Mais je ne sais pas combien ça représente par rapport à l'ensemble du private equity, parce que là, on est sur du non-coté. Oui, oui. Mais c'est quelques pourcents, c'est encore relativement minime. Et il y a un gros travail qui est en train de se faire en ce moment de définition de qu'est-ce que de l'investissement impact. Comme on a été longtemps quelques pionniers, on était 5, puis une dizaine, puis une quinzaine, on a été longtemps quand même assez peu nombreux. On n'avait pas le besoin, en tout cas, c'est pas fait ressentir d'avoir une définition extrêmement arrêtée. Aujourd'hui,
vous avez... Il y en a une, hein, internationale. Enfin, moi, je l'ai vu quelque part, vous allez me dire si c'est celle-là. Elles sont réalisées avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier.
C'est ça.
C'est ça.
On part bien de cette définition qui est celle du jean et qui, je pense, a été faite par Ronald Cohen. Je pense que tout le monde se retrouve à peu près dans cette définition. Simplement, quand vous rentrez... quelle est votre politique de sélection ? Comment vous accompagnez ? Dans le côté, par exemple, l'accompagnement est un sujet qui n'a rien à voir avec celui, avec l'accompagnement que nous on fait en tant qu'actionnaire significatif d'une entreprise. On peut se parler toutes les semaines. Quand vous êtes un investisseur dans le côté qui a quelques pouillèmes d'un groupe du CAC 40, vous participez, enfin vous l'accompagnez pas.
Oui.
Donc, il y a eu un besoin en particulier du monde coté de pouvoir réfléchir à des produits d'impact qui nous a poussé à approfondir la définition de l'impact. Mais en fait, chaque fonds d'impact a un peu développé sa méthodologie maison de sélection, d'analyse et puis d'accompagnement et de mesure.
Oui, c'est ça.
Il y a plusieurs étapes.
Hein. Ouais, dans l'accompagnement, effectivement, vous différenciez un peu des autres dans la mesure où vous êtes vraiment... à côté, vous accompagnez vraiment la stratégie des entreprises qui sont dans votre portefeuille. Vous en avez 11 d'ailleurs, des entreprises dans votre portefeuille. Vous
gérez... Non, on en a 15 maintenant.
15 ? Ah, alors vos chiffres ne sont pas bons sur votre, sur votre site. Vous n'avez pas à réactualiser parmi ces
Elles
entreprises.
Elles sont toutes présentées sur le site, je crois, mais on n'a peut-être pas à réactualiser ce chiffre.
Ah, d'accord. Bon, en tout cas, il est écrit 11. Donc, vous rectifiez 15, 83 millions d'euros. Donc, du coup, ça a augmenté aussi, j'imagine.
C'est 125.
Pas tout à fait rafraîchi non plus.
On est en train de refondre notre site internet aussi.
D'accord. Parmi ces entreprises, donc, la Camif avec Emery Jacquia, qui a été un de nos anciens invités, Ulule, Make.org, dont on a déjà parlé, Deuxième Avis aussi, ou encore Open Classroom, qui fait de la formation en ligne, qui vient de lever 80 millions de dollars pour financer son développement en plein boom après la crise. C'est une fierté aussi pour vous de voir ces entreprises qui grandissent, parce qu'Open Classroom, vous êtes avec eux depuis un certain temps.
Oui, Open Classroom, ça fait plus de 5 ans. Open Classroom est très emblématique du type de... qui ne le dirait pas d'ailleurs, mais du type de projet qu'on essaie de faire, qu'on essaie d'accompagner. En fait, ce qui est très, très particulier chez Open Classroom, c'est que quand les dirigeants sont venus nous voir en 2016, ils avaient déjà une vision extrêmement claire de leur mission. Et nous, on commence toujours par essayer de comprendre la mission. Qu'est-ce que tu veux transformer dans la société ? En quoi ton entreprise va permettre de délivrer un impact ? Et eux étaient venus vraiment avec leur mission qui était rendre l'éducation plus accessible. Mmh. Et on les avait challengés là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être accessible ? Est-ce que c'est former des gens peu qualifiés, des demandeurs d'emploi, des gens isolés qui ne peuvent pas venir sur les bancs de l'université ? Donc on avait beaucoup challengé cette notion d'accessibilité. Et en fait, le gros pari qu'on a pris en investissant dans Open Classroom, c'est est-ce qu'ils arrivent... Aujourd'hui, ils l'étaient. Ils nous avaient prouvé qu'ils étaient capables d'accompagner... ils ont une pédagogie qui est assez incroyable et qui permet d'allier le remote, l'enseignement à distance, avec beaucoup d'humains, puisqu'il y a des pairs, il y a des coachs, il y a beaucoup de gens présents en fait, dans l'accompagnement de chaque étudiant dans son cursus, et c'est une logique de projet. Et en fait, ils ont toujours souhaité développer chaque brique de leur cursus sans qu'il y ait besoin d'aucun prérequis d'éducation. Donc vous pouvez rentrer sur Open Classroom, sur n'importe lesquels des thèmes, et ne pas avoir le bac. Et donc ça a attiré beaucoup de gens qui étaient peu qualifiés, mal qualifiés. Et ils sont entre 30 et 40% de gens qui sont au-dessous de Bac plus 2. Ils ont un nombre encore très important de gens qui n'ont pas le bac. Ça, c'est notre test d'impact à nous. C'est vraiment leur capacité à donner un diplôme et à remettre dans la vie active des gens qui n'ont pas de qualification ou dont la qualification ne leur permet plus d'être employables. Et d'ailleurs, c'est le deuxième pied de leur mission, c'est l'employabilité. C'est permettre aux gens de trouver un job dans les 6 mois qui suivent. Et en fait, ils sont très vite devenus entreprise à mission. On n'a pas parlé de tout cet aspect mission.
Mais on va en parler.
Et en fait, c'est réellement l'accessibilité qui a fait le succès d'Open Classrooms. Enfin, c'est vraiment... Et c'est là où... Enfin, je pense que c'est très représentatif de ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire qu'on est convaincu, quand on rentre dans une société qui a un très fort alignement potentiel entre, enfin, oui, potentiel entre le projet de croissance et le projet d'impact, et que les deux vont se nourrir.
Oui.
C'est pas exempt de tension. Il peut y avoir des arbitrages à faire, mais que globalement, Open Classroom, le fait qu'ils aient une stratégie d'aller vers le bas de la pyramide a été extrêmement porteuse, y compris aux États-Unis où ils ont attiré des investisseurs en voyant qu'ils étaient capables de former énormément de gens, assez peu formés et pour pas très cher par rapport à ce que font les États-Unis. Tout ça les a orientés aussi vers des clients qui sont aussi Pôle emploi, des organismes de formation qui sont capables, l'Île-de-France, qui sont capables de prendre en charge une partie des financements des études, ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont près de 60% de leurs étudiants qui bénéficient de prises en charge financières sur le cursus. Mmh. Et tout ça, c'est une volonté, en fait. C'est vraiment dans l'intention des fondateurs de développer une société avec une approche, un modèle de formation très accessible. C'est l'intention des fondateurs, la vision des fondateurs est absolument indispensable dans notre approche de l'impact.
Alors justement, pour revenir sur vos critères, est-ce qu'ils ont évolué en 13 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour frapper à votre porte? Quel est votre ticket moyen? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme chiffre d'affaires, comme rentabilité? Est-ce que ça a changé ça aussi en 13 ans?
Oui, ça a changé. On a eu longtemps la barrière du million. Quand on s'est créé, on voulait pas faire peur à nos investisseurs dans tous les sens du terme. Donc on a quand même opté pour accompagner, financer des entreprises qui avaient clairement fait la preuve de leur modèle économique, qui avaient déjà une traction commerciale assez forte. Mmh. Et donc il fallait qu'ils fassent au moins 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis avec l'évolution, en 10 ans, on a constaté 2 phénomènes. Un, c'est que l'innovation technologique et la digitalisation a fait que vous avez eu un mouvement très fort de sociétés qui croissent très très vite avant d'être rentables. Donc on est sorti d'une approche qui était plutôt considérée comme du capital développement au départ pour aller vers ce qu'on appellerait aujourd'hui du growth, où vous avez des sociétés comme Open Classroom. Typiquement, on a fait un tour en 2016 à 6 millions, puis en 2018 à 50, et puis il y en a un nouveau en 2021 à 80. C'est des entreprises qui croissent très vite, mais elles seraient rentables en exploitation, mais elles dépensent énormément, elles investissent beaucoup, elles sont pas rentables. Donc on a un peu évolué dans le modèle d'entreprise qu'on accompagne, puisqu'on a toujours cherché la croissance. On a toujours été convaincus que l'impact ne pouvait se démultiplier que s'il y avait de la croissance. Mmh. Et il y a un autre phénomène, c'est que évidemment, avec la multiplicité de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui crée des boîtes avec de l'impact, le marché le plus dynamique, c'était le marché de l'early stage, voire du seed. Enfin, et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on soit capable de rentrer plus tôt dans le cycle de croissance des startups, pas uniquement quand elles font déjà 3 ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on a créé en 2019 un fonds seed, seed série A, qui commence très très tôt et qui met à partir de 500 000 euros de tickets jusqu'à 4-5 millions avec notre fonds growth. Donc, en fait, on est sur un continuum où on est capable de mettre des tickets de 500 000 à 4 millions. Et avec la levée de notre fonds 3 qui est en cours, on devrait aller jusqu'à 8-10 millions en capacité d'investissement sur toute la durée.
Puis il y a aussi la question de la mesure de l'impact. On sait que c'est vraiment le nerf de la guerre. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que chacun a sa technique, sa propre méthode? Ou est-ce qu'il y a une méthode qui est applicable à toutes les entreprises et pour tous les fonds?
Beaucoup aimeraient aujourd'hui qu'il y ait une méthode applicable à tous et qu'on se retrouve avec 1 ou 2 indicateurs tout là-haut, que les grands investisseurs puissent montrer aux épargnants pour montrer combien ils agissent. Mais malheureusement, l'impact, contrairement à l'ESG, se consolide beaucoup plus difficilement. Et pour preuve, nous, je pense qu'on a fait 15 investissements, en particulier sur les sujets sociaux, sociétaux. Je pense qu'il n'y a pas un indicateur qui est identique entre deux participations. C'est-à-dire que chacun, et c'est ça qui fait l'impact, à chaque fois qu'on rencontre une entreprise, on essaie de comprendre sa mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut transformer. C'est quoi la contribution sociale ou environnementale qu'elle veut apporter? À partir de là, on cherche à comprendre l'ambition, les grands objectifs qu'elle peut avoir. On va être ensemble pendant 4-5 ans. Qu'est-ce qu'on veut accomplir en termes d'impact? Et de la même façon qu'on va travailler sur des business plans financiers, on va travailler sur ce que nous, on appelle un business plan impact, en amont de l'investissement. Et on va réfléchir ensemble sur l'ambition qu'on a envie de se donner en termes d'impact. Et on va demander aux dirigeants de se projeter sur 5 ans, comme on fait sur un business plan financier, sur les grands axes, par exemple Open Classroom, c'est l'accessibilité et l'employabilité. On va dire, c'est quoi vos objectifs là-dessus? Et quels sont les indicateurs qui permettent de témoigner que vous êtes bien en train d'accomplir cette mission-là? Et si votre business plan, il est comme ça, enfin, il est de cette ambition-là, quelle est l'ambition sur le plan de l'impact? C'est un travail qui est extrêmement intéressant. On se plante souvent, forcément, comme un business plan financier, parce que c'est très dur de prévoir ce que va devenir une entreprise qui est jeune et qui croît vite dans les 5 ans à venir. Mais ça nous permet, nous, de construire une thèse d'impact. C'est-à-dire, ça nous permet de nous forger une conviction sur le potentiel. D'abord, la vision des dirigeants. Parfois, on a des boîtes qui ont des super impacts à intenter, mais ce n'est pas porté. C'est pas, les dirigeants ne portent pas une vision de ce qu'ils veulent faire. Et le problème que ça pose pour nous, c'est que vous investissez aujourd'hui, et dans 2 ans, en fait, ils auront peut-être pivoté, et la thèse d'impact, elle sera complètement ailleurs, oui, et il y aura peut-être plus de thèse d'impact du tout. Et c'est là où on a commencé à réfléchir à la mission, parce que l'impact, c'est l'aval, en fait, du processus, hein. Ce que je disais tout au début, c'est un résultat. Mais un résultat n'existe pas sans une ambition, une vision, une intention. Tout là-haut. Quand je dis tout là-haut, pour moi, c'est vraiment... Enfin, ça correspond, c'est au-dessus de la stratégie de l'entreprise. Et on a eu des cas où on avait une vraie mission, un impact non encore avéré, mais on avait la conviction avec la vision des dirigeants qu'il y avait un vrai potentiel d'impact et qu'on allait pouvoir le construire. C'est le cas de Camif, par exemple. Camif, le dirigeant avait une mission extrêmement claire de ce qu'il voulait faire de Camif. Nous, on a cru dans ce timing. On est venu assez tôt quand même sur le sujet du meuble durable pour les Français. C'était pas un pari gagné quand même au départ. Et c'est maintenant, 7 ans après notre investissement, que Camif est vraiment en train de recueillir les fruits de son positionnement engagé sur le meuble français de qualité et avec une traçabilité forte, etc. Parce que les Français sont prêts aujourd'hui, enfin considèrent que c'est des vrais critères d'achat, ce qui n'était pas le cas en fait. Mais il y a d'autres cas où, contrairement à Camif, on avait un impact, mais on n'avait pas la mission. Ben, on préfère le cas où il y a une mission très claire et on se sent capable de délivrer un impact au bout. Même s'il n'a pas été travaillé, il n'a pas été monitoré, il n'a pas été complètement... Enfin, il n'y a pas eu de méthodologie pour le définir. Ça, on les aide à faire ça. Par contre, une entreprise qui a un impact, mais où on ne sent pas que c'est porté, plusieurs fois, on a renoncé à y aller. Parce que si ce n'est pas porté par les dirigeants, on n'a pas, de test d'impact.
Vous avez une vraie mission, finalement, de RH, mais c'est vraiment... C'est quoi? C'est du feeling? C'est aussi de la conviction? C'est...
On commence à avoir des outils. Alors, effectivement, fait maison. Nous, on regarde 6 choses quand on essaie de se convaincre, enfin, quand on cherche à se forger une conviction sur le potentiel d'impact. On regarde la profondeur du besoin. Nous, on s'intéresse uniquement aux sociétés qui adressent ce qu'on appelle des besoins fondamentaux. Tout ce qui est autour du vivre dignement, se réaliser dans la société, la formation, l'éducation, les sujets de démocratie nous intéressent. On considère que c'est un besoin fondamental en fait de continuer à s'exprimer en tant que citoyen dans une démocratie. Et puis tous les aspects de transformation de nos modèles économiques pour aller vers une société respectueuse de nos écosystèmes et une société bas carbone. Mais on a plein de sous-sujets là-dedans sur lesquels on estime qu'il y a pas on n'est pas forcément sur des sujets, des besoins fondamentaux. Je sais pas, on a vu un dossier sur des emballages recyclables de rouge à lèvres. Bon, ça a de l'impact, mais nous, c'est pas le genre de dossier où on va arriver à se forger une conviction. Donc ça, c'est la profondeur du besoin. On regarde l'additionnalité. Qu'est-ce que l'entrepreneur amène de neuf sur son marché? Comment l'innovation qu'il apporte sur le plan social et environnemental, comment ça se traduit comment il transforme son marché ? Qu'est-ce qu'il amène de nouveau sur le marché ? Et puis, il y a l'accessibilité. Est-ce qu'on fait vraiment de l'outreach pour aller chercher les populations qui ont le plus besoin de votre service ou de votre produit ? Ou est-ce qu'on se contente juste, en fait, de dire probablement que la solution est ouverte à tous, mais quand on constate, en fait, peut-être qu'elle sert finalement à une petite tranche de population, parce que peut-être c'est cher, parce que, etc. Nous, on s'intéresse vraiment aux projets qui ont un potentiel d'accessibilité très fort. Et puis, l'alignement, c'est un sujet qu'on regarde de très près aussi, l'alignement entre le business et sa mission sociale. S'il y a un désalignement, quelque part, c'est un peu compliqué. Et puis, l'alignement entre les dirigeants et le reste de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut construire dans le temps. Mais il faut que la mission, en fait, se traduise dans les aspects les plus opérationnels de l'entreprise. Sinon, on est en porte-à-faux. Enfin, il faut que ça se traduise dans la façon dont on recrute, dans la façon dont on fait évoluer le produit, dans la façon dont on construit sa marque, etc. Et ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. Ouais. Pour le coup, on fait beaucoup de choses là-dessus avec les entreprises.
Alors, vous étiez pionnier en 2008. Aujourd'hui, il y a de nombreux fonds qui ont émergé. J'ai une petite question pour vous, parce que c'est devenu une tradition dans ce podcast. Il y a d'anciens invités qui posent une question au nouvel invité. C'est la question surprise. Et pour vous, eh bien, c'est Jean Moreau qui se prête au jeu. Jean Moreau qui est à la tête de Phoenix, une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Il est également avec Eva Sadoun à la tête du mouvement Impact France, qui regroupe toutes ces entreprises, qui placent le bien commun au centre de leurs activités. Il a fait partie des invités de la saison 1 et je vais vous faire donc écouter sa question.
Bonjour Laurence, ici Jean, le CEO de Phoenix. Ma question pour toi est la suivante. Toi qui es une pionnière du monde de l'impact investing et de la finance responsable, quel regard tu portes sur la multiplication des fonds au cours des 10 dernières années, disons ? Et notamment l'entrée sur ce marché de fonds qui étaient des fonds traditionnels, qui se mettent à créer des poches spéciales Impact Investing. Merci pour ta réponse.
Merci Jean. Super question. J'ai partiellement répondu au début, je pense, de notre entretien. Mais pour répondre à la question de Jean, il y a un aspect très positif et un aspect moins positif. Et l'aspect très positif, c'est que je pense qu'il y a une vraie mouvance. Enfin, les gens sont en train de comprendre qu'en fait, la société n'accepte plus que leur argent soit placé avec uniquement un objectif, en tout cas de moins en moins, avec un objectif uniquement financier. Et comme on est un maillon d'une chaîne, au final, c'est les épargnants qui finalement font les choix et demandent à ceux qui placent leur argent, de le placer intelligemment. Il y a quand même un mouvement profond de société qui dit, en fait, on n'a pas envie d'être dans un système capitaliste qui ne regarde que la maximisation de la valeur financière. On n'a plus envie de ça. Et je pense que c'est ce que l'Impact Investing a apporté de plus précieux au monde de la finance. C'est qu'il a ouvert les chakras d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il a... Il apporte à la finance la possibilité de se dire qu'on n'est pas obligé de servir un seul intérêt. Quand on sert l'intérêt de nos porteurs de parts, nous, c'est d'un point de vue juridique, on gère de l'argent pour compte de tiers, et on sert l'intérêt des gens qui nous ont confié de l'argent. Et en fait, là où on s'est trompé, je pense, pendant pas mal d'années, ou en tout cas, on a adhéré à un dogme qui était que cet intérêt était uniquement financier. Mais quand tu vas voir aujourd'hui des investisseurs, ils reconnaissent de plus en plus que leur intérêt n'est pas uniquement financier et que leurs propres clients leur demandent des comptes sur autre chose, juste que la maximisation de la valeur. Et donc, quand on sert l'intérêt de nos actionnaires, on ne sert pas un intérêt uniquement financier. On sert un intérêt qui peut poursuivre de multiples buts. Et parmi ces buts, il y a évidemment le fait de relever des défis sociaux environnementaux. Et ça, je pense que c'est un mouvement de fond qui est positif. Ensuite, moi, ça me pose une autre question. Cette multiplicité de fonds, comme a dit Jean, qui développent des poches impact investing, alors que eux, en tant que fonds, n'ont pas d'approche particulière sur l'impact. Nous, on est des purs players de l'impact. Aujourd'hui, vous avez des grandes sociétés de financement. Pour ne pas prendre des exemples français, prenons BlackRock, qui est un exemple emblématique.
Vous voulez dire qu'ils ne sont pas tellement alignés, quoi.
Il y a un petit manque d'alignement. C'est-à-dire, l'impact, ce n'est pas un produit. Ce n'est pas uniquement un produit. Ouais. Vous pouvez créer un très bon produit impact. Mais qu'est-ce que vous voulez... C'est quoi votre rôle en tant qu'actionnaire? Qu'est-ce que vous voulez transformer dans la société? C'est quoi votre mission en tant que société de gestion? C'est pour ça que je crois beaucoup aux entreprises à mission financière. Parce que les financiers sont les derniers, finalement, à se poser la question de leur mission, eux, en tant qu'actionnaires. Et je pense que c'est important de distinguer ce qui relève d'un produit qui peut avoir un impact, certes, de la personne morale qui est derrière. Qu'est-ce qu'elle souhaite, elle? Est-ce que son objectif, c'est de continuer uniquement à gagner de l'argent, à maximiser la valeur, ou est-ce que c'est autre chose? C'est souvent autre chose, mais c'est important de le formaliser, de l'exprimer.
Alors, un petit mot de votre développement, pour dire que vous avez aussi lancé le fonds Agri-Impact, il n'y a pas très longtemps, avec la Fondation Avril, objectif soutenir la transition agricole. Vous allez financer toutes sortes de projets avec ce fonds, circuit court, production d'énergie renouvelable, ou encore transformation alimentaire. Je crois que vous avez aussi des envies de vous développer dans l'immobilier social, donc il y a plein de projets pour Citizen Capital. Et puis je voulais surtout qu'on parle de votre autre casquette, parce que vous avez aussi cofondé la communauté des entreprises à mission. On rappelle pour les auditeurs que l'entreprise à mission, c'est un statut réservé aux acteurs qui sont les plus engagés, permis par la loi Pacte. On peut se contenter d'inscrire sa raison d'être, mais certains veulent aller plus loin. Ils deviennent alors des entreprises à mission, avec une obligation de moyens pour atteindre cette mission. Est-ce que cette communauté que vous avez cofondée, vous en êtes d'ailleurs la vice-présidente, est-ce qu'elle arrive à convaincre, à rallier de plus en plus d'entreprises pour devenir des entreprises à mission?
La communauté des entreprises à mission, elle est en pleine croissance en ce moment. Elle est dans une période où elle attire énormément d'intérêt parce que beaucoup de gens se posent la question de est-ce que je deviens société à mission ou non. Et il se trouve que la communauté accueille deux catégories de membres, les sociétés à mission et les en chemin.
Ouais.
Parce qu'on s'est rendu compte que celles qui étaient en chemin, en fait, souvent, c'est elles qui ont le plus besoin de partage entre pairs, de s'acculturer au sujet. Et la mission de la communauté, parce qu'elle définit sa propre mission, et notamment de permettre le partage entre pairs, sachant qu'on est sur un objet assez neuf. L'entreprise à mission, c'est très neuf d'un point de vue conceptuel, intellectuel, même légal. Et qu'on avance en partageant entre nous. Et on sait que même s'il y a un cadre légal qui est ce qu'il est, c'est ce qu'on en fera collectivement qui fera le succès ou non de ce mouvement autour de l'entreprise à mission.
Alors, il y a le cas d'Anone qui a beaucoup fait parler. C'est la première entreprise du CAC 40 à devenir entreprise à mission. Après le départ d'Emmanuel Faber, beaucoup en ont conclu finalement que bien commun, profit, ça n'allait pas forcément de pair. Comment est-ce qu'il faut lire cet événement?
Ah oui, il y a eu beaucoup de littérature sur Danone. D'abord, je pense qu'il faut avoir en tête que le départ d'Emmanuel Faber est lié à bien d'autres sujets que le sujet de la société à mission.
Oui, bien sûr, c'est complexe, évidemment, c'est difficile. Complexe. C'est difficile de résumer ça en quelques phrases, mais quand même, il y en a certains qui ont dit « Ah oui, ben voilà, regardez ce qui arrive, en quelque sorte, quand on devient une société à mission. Enfin, » si je veux caricaturer, c'est un peu ça.
Oui, alors, de ce point de vue-là, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus complexe de faire le chemin vers la société à mission quand on a un actionnariat disparate et qu'on est coté, que quand on a quelques actionnaires à son capital. Parce que le travail de devenir société à mission, même pour des gens qui ont eu, comme nous, une mission qui est, je pense, chevillée au corps depuis la création, quand on est devenu société à mission, on a quand même mis un an. On a vraiment re-questionné notre mission. On n'était plus deux, mais 15. Il y a des différentes approches. Il y a des sujets intergénérationnels. Donc, imaginez une entreprise comme Danone, qui doit embarquer ses actionnaires, ses salariés, être assez proche de la vision consommateur-client. Il y a les fournisseurs. C'est l'esprit de l'entreprise à mission, c'est quand même l'objet d'intérêt collectif. C'est-à-dire que vous considérez que l'entreprise n'appartient plus uniquement à ses actionnaires, en fait. Elle appartient à ses parties. Et l'actionnaire reconnaît l'intérêt propre de l'entreprise. Il reconnaît donc qu'il peut y avoir des décisions qui ne sont pas uniquement à court terme en faveur d'une partie, et que finalement, Enfin, moi, je dis souvent qu'on se reconnaît en tant qu'actionnaire comme une partie parmi d'autres. On n'a plus les shareholders d'un côté et les stakeholders de l'autre. Mmh. On est un stakeholder parmi d'autres. Et ça, je pense, c'est un long chemin.
Ouais.
Par ailleurs, ça demande à ces actionnaires disparates, qui peuvent être des milliers de particuliers, d'avoir eux-mêmes, d'intégrer suffisamment la mission de Danone pour avoir une approche qui n'est pas uniquement de maximiser la valeur à court terme, ce qui est a priori assez loin, en tout cas qui n'est pas complètement dans la tradition de la bourse. Donc ça demande de penser quand même plus long terme par rapport au court terme. Ça demande de penser plusieurs objectifs et pas uniquement un objectif financier. Et ça demande de prendre en compte une certaine complexité qui est quand même beaucoup plus complexe pour une entreprise cotée. Donc, moi, je ne saurais que conseiller de prendre son temps.
Ouais.
Enfin, d'y travailler. Mmh. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas accessible aux entreprises cotées. Je pense que c'est le sens de l'histoire.
Mmh.
Mais je ne sais pas si Danone a été trop vite, mais en tout cas... ça prend du temps. Enfin, je vois même à une entreprise, enfin, les entreprises de la communauté des entreprises à mission qui sont en majorité des PME, ça prend du temps. Parce qu'en fait, vous re-questionnez aussi votre stratégie. Votre stratégie est raccrochée à la mission. Donc vous avez une espèce de waterfall. Hein. Une fois que vous avez une mission, vous avez des objectifs statutaires. Derrière, vous avez une stratégie avec des objectifs opérationnels. Et ça descend jusqu'à des objectifs... que les uns et les autres peuvent s'approprier au quotidien dans leur travail. Donc c'est un énorme travail de réalignement. C'est pour une boîte d'une grande taille, c'est quand même un morceau.
Ça fait défi. Alors, Laurence Meyeri, je termine toujours ce podcast par cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans ce contexte si particulier, post-crise sanitaire ?
Je lui donnerais le conseil de regarder en priorité les secteurs les plus résilients, avec des marchés profonds. Les secteurs résilients, on parle aussi de secteurs défensifs, c'est les secteurs qui, quoi qu'il arrive, on en a toujours besoin. La santé, l'éducation, la formation, tout ce qui contribue au changement climatique. On sait que quoi qu'il arrive, on aura besoin, même dans les pires crises, de gens qui continuent à nous éduquer, à nous former, à nous soigner, etc.
Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ?
En tout cas, heureusement qu'on ne m'a pas dit ce que c'était l'investissement et que j'y suis allée un peu comme l'investisseur qui ne sait pas ce qu'il fait et donc il l'a fait. Donc je suis assez contente en fait d'avoir appris en marchant. Et de toute façon, comme ça n'existait pas, voilà, il n'y avait pas le choix. Je sais pas, je fonctionne. Je me suis jamais posé cette question. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant, mais il y a aussi plein de choses que je suis contente de ne pas avoir su avant.
Oui, c'est vrai, on peut le voir des deux côtés. Le ou la mentor que vous auriez rêvé de croiser dans votre carrière ?
Mais quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer, c'est Pierre Omidyar, hein, qui a fondé eBay et qui fait plein de choses passionnantes dans l'impact maintenant. Mais qui n'est pas beaucoup en France, même s'il a des origines partiellement françaises. Je pense que Ronald Cohen, qui est un des. Enfin, qui, je pense, est le fondateur du premier fonds d'impact européen, si ce n'est mondial, qui est Bridges Ventures, que nous on a beaucoup regardé, qui s'appelle Bridges Fund Management maintenant. Je pense que c'est quelqu'un que je connais un petit peu, mais qui, si je l'avais eu comme mentor, j'aurais été très heureuse.
C'est le père, hein, c'est le père de l'impact investing.
Ouais. Puis il y a bien d'autres gens.
Vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si.
Je ne serais jamais devenue ce que je suis si je n'avais pas rencontré mon associé Pierre-Olivier Barène. On est très très complémentaires.
Ouais.
Et on se retrouve sur un certain nombre de convictions et de sujets intellectuels. Et donc, on continue de ne pas s'ennuyer. Après 13 ans, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est vrai. Votre plus bel échec ?
Mon plus bel échec, c'est peut-être une très courte expérience en politique, bien avant Citizen Capital, qui m'a permis de définitivement fermer la porte.
à cette voix-là.
À cette voix-là qui était plus une injonction en fait qu'une volonté personnelle. Et donc ça m'a aidé à fermer la porte.
C'était quoi? Vous étiez présentée quelque part ou vous avez fini?
Je vais pas approfondir.
Vous voulez pas le dire.
C'était les régionales. D'accord. En Île-de-France en 2004. D'accord. J'en dirai pas plus.
Ok. Une qualité essentielle pour entreprendre aujourd'hui?
J'ai envie de dire la vision. Mais je ne sais pas si on veut parler d'une qualité, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir une vision de transformation, parce que c'est ce qui permet de se différencier derrière, c'est ce qui permet de toujours garder en tête la singularité du projet. Et donc, on peut partir en ayant une opportunité qu'on découvre par hasard même, mais c'est extrêmement important d'avoir une vision de comment on va transformer sa société, si ce n'est la société, dans les 3-5 ans, d'avoir... Donc, de rêver, je pense. D'avoir une vision de rêve, en fait. Quand je vois Aymeric Jacquia ou Pierre Dubuc et Mathieu Nebras, en fait, quand ils vous disent leur rêve, vous avez envie de rigoler, parce que ça paraît... Enfin, pour un investisseur, ça paraît du domaine de l'impossible. Mais en fait, c'est souvent les projets impossibles qui finissent par y arriver.
Enfin, parce qu'ils sont portés justement par des gens qui lâchent.
Qui y croient, ouais.
Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, de s'engager, mais qui ne savent pas comment?
Il y a plein de façons de s'engager différentes. Moi, il y a une forme de lien aujourd'hui entre l'entreprise et l'association. Enfin, il y a des gens qui ont réfléchi à créer une association, qui ont finalement créé une entreprise. Ouais. Des gens qui ont créé une entreprise qui finalement auraient pu créer une association. Donc j'aurais tendance à dire que le monde associatif et le monde entrepreneurial se ressemblent de plus en plus, parce qu'ils sont ils poursuivent de plus en plus justement des rêves, enfin des enjeux de société. Et le monde associatif est de plus en plus entrepreneurial, par nécessité, parce que l'État, bah, les finances publiques sont plus là pour apporter autant d'assurances, hein, aux associations qu'avant, donc elles doivent lever des fonds. Donc j'aurais tendance à dire que les deux projets peuvent être extraordinaires, et donc j'aurais tendance à conseiller une expérience dans le monde entrepreneurial plutôt jeune ou associatif. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que dans les grandes entreprises aujourd'hui, il y a des projets intrapreneuriaux qui sont passionnants.
Il y a de plus en plus d'intrapreneurs, d'ailleurs, qui peuvent monter leurs projets au sein de l'entreprise.
Donc je trouve ça extrêmement difficile. Moi, je sais que la lecture, lire beaucoup m'a beaucoup nourri sur les voies que j'avais envie de prendre. Et aujourd'hui, les podcasts aussi peuvent nourrir.
Tout à fait, vous avez raison de le dire. Merci beaucoup, Laurence, en tout cas. On retrouve l'actualité de Citizen Capital sur votre site, mais aussi sur les réseaux sociaux, et puis celles et ceux qui sont intéressés. Il y a aussi la communauté des entreprises à mission. Vous organisez aussi pas mal d'événements, alors en ligne pour le moment, évidemment, mais en tout cas pour celles et ceux qui sont intéressés, qui veulent y aller, il y a pas mal de choses qui sont organisées pour se renseigner et pour être peut-être une entreprise en chemin également.
Entrepriseamission.com.
Voilà, parfait. Merci beaucoup en tout cas et très très bonne route à vous.
Merci beaucoup Sylvia.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à David Führer pour la réalisation. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Grâce à vous, les auditeurs, Impact Positif s'est développé. En plus des réseaux sociaux, Twitter et Instagram, vous nous retrouvez sur lci.fr, sur la page dédiée au podcast, mais aussi sur la page Impact Positif, où vous attendent de nombreux contenus, ainsi que les interviews tirées du podcast. À très vite pour un nouveau numéro d'Impact Positif.